Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
L'amour, ce sentiment tellement puissant qu'il nous pousse parfois à faire des choses que l'on n'aurait jamais pensé possibles. L'amour, cette sensation qui nous fait croire que tout est réalisable, que le monde est à nous. L'amour, ce sentiment qui, quand il part, nous fait tellement de mal. Aujourd'hui et depuis toujours, que ce soit à la télé, au théâtre, dans les séries, dans les livres, au cinéma, dans les chansons, le couple et de manière générale l'amour amoureux est tout puissant. L'amour amoureux, qu'il soit passionnel, destructeur ou à sens unique, a toujours été commenté, étudié, mis en scène. Nous avons toutes et tous grandi dans une société où le couple est tout puissant, cette société dans laquelle se marier et entendre la fameuse phrase « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » est le rêve de tous les enfants, fans des princesses Disney. Au fil des années, de l'enfance en passant par l'adolescence jusqu'à l'âge adulte et même chez les seniors, le couple et l'amour amoureux est une préoccupation majeure, si ce n'est centrale, de nos vies. Alors quand on finit par trouver cette personne, vous savez, celle qui est au-dessus de tout le monde, celle pour qui on donnerait tout, celle qu'on imagine être la seule et unique, lorsqu'on finit par rencontrer notre fameuse âme sœur et que, finalement, tout s'arrête, notre monde s'écroule. C'est la fin d'un idéal, d'un rêve que l'on avait dans notre inconscient depuis toujours. C'est la fin d'un quotidien, d'un futur, de projets. On se retrouve seul de nouveau, et on peut même parfois ne plus savoir quoi faire de nous-mêmes, sans l'autre que l'on pensait faire presque partie de nous. Les ruptures, aussi courantes soient-elles, font souffrir. Rompre n'est jamais simple, et on peut se retrouver totalement démuni face à une telle situation. Aujourd'hui, trois femmes ont accepté de parler d'une rupture qui les ont marquées. Tess, maman solo de 43 ans, Aglaé, jeune femme de 21 ans, et Léna, qui est une de mes amies très proches, doctorante de 23 ans.
Vous écoutez
Selon certains chercheurs, les circuits cérébraux des relations amoureuses seraient comparables aux circuits cérébraux des comportements addictifs. Donc surmonter une rupture serait pour notre cerveau comme surmonter une addiction à la drogue. Cela expliquerait l'attachement que l'on porte à une relation et la difficulté que l'on a à s'en défaire et à la quitter définitivement. Pour commencer cet épisode, j'ai demandé à mes trois invités du jour, Aglaé, Léna et Tess, de me parler de cette fameuse relation qui s'est soldée par une rupture. Comment a-t-elle commencé? Qu'est-ce qui les a fait tomber amoureuses? Et quels étaient les dysfonctionnements de la relation?
C'était une soirée de nouvel an chez des amis. J'avais 16-17 ans. Et puis là, je vois ce bel inconnu qui passe des musiques que j'aime. Du coup, Je l'aborde et puis on discute un petit peu et de fil en aiguille, on se rend compte qu'on est musiciens tous les deux, on se découvre plein de points communs. Puis on danse un petit peu, on se rapproche. Et puis à un moment donné, il y a tous nos amis qui ont quitté la pièce et on s'assoit dans le canapé, puis on s'embrasse. C'était maladroit, mais je pense que je m'en souviendrai toujours comme d'un moment qui était vraiment, vraiment magique. Et c'est comme ça que débutait ma première vraie relation, qui était donc une relation hétérosexuelle et exclusive. Donc les premiers mois, tout est merveilleux. On est dans le même lycée, donc on se voit tout le temps, on va en concert ensemble, on fait énormément d'activités ensemble, on va voir nos amis, on va faire des soirées. Tout se passe bien. Et puis après, après le bac, on entre en études supérieures, lui comme moi. Moi, je change de ville. Et puis, à partir de là, nos vies deviennent assez différentes. Moi, je suis très seule. Et puis, je me plonge à fond dans les cours. Alors que lui, il est très entouré. Il commence à faire beaucoup plus la fête, etc. On arrive à se voir les week-ends quand même. Et pendant les vacances. Puis bon, les années s'enchaînent. Et peu à peu, nos chemins de vie s'écartent. Je continue à faire mes études, alors que lui, il est au chômage suite à sa formation. Lui, il habite toujours chez ses parents, alors que moi, j'ai gagné en autonomie, je me débrouille énormément toute seule. Et puis, on a nos avis qui vont commencer à diverger de plus en plus sur beaucoup de sujets importants. Et pourtant, on conserve cette image vraiment de couple modèle auprès de notre entourage. Et moi-même, je suis restée longtemps persuadée que tout allait parfaitement bien.
En juin 2019, je commence un travail de serveuse dans un camping et là, j'y rencontre un garçon qui travaillait également comme serveur. Lui a tout de suite un coup de cœur, un coup de foudre pour moi et moi je l'apprécie aussi mais je me méfie de lui car il est un peu plus jeune que moi. Il a pas l'air de prendre les relations au sérieux. Enfin, c'est quelqu'un qui se prend vraiment pas la tête et il vient aussi à peine de se séparer. Et je veux pas non plus me remettre directement en couple parce que je sors d'une longue relation un peu chaotique et que mon image du couple, elle est pas super bonne à ce moment-là. Mais bon, on s'entend très bien, on passe tout notre temps ensemble, à la fois au boulot et en dehors. Et tout le monde nous pense déjà en couple alors que c'est pas le cas. Et donc en juillet 2019, je finis un peu par céder quelque part et on se met ensemble. Tout va ensuite très vite parce que, ben, comme je le disais, on est H24 ensemble donc on tombe très vite amoureux, autant lui que moi, et on habite quasiment ensemble, on fait tout ensemble. Mais en fait, c'est intéressant parce que nous, on se croit passionnément amoureux, mais pour les gens, c'est une histoire qui va durer 2 mois, parce qu'il faut pas oublier qu'on est extrêmement différents. On est vraiment deux opposés. Lui est quelqu'un de très bordélique, qui se prend pas la tête, qui s'en fout un peu de tout, et moi, je suis totalement l'opposé. Je m'inquiète de tout, je fais des to-do list de tout et n'importe quoi. Je suis extrêmement carré, presque psychorigide. Et donc pour les gens, c'est une relation qui ne va pas du tout durer. Mais nous, on est fous amoureux l'un de l'autre, donc on veut leur prouver le contraire. Et arrive l'hiver, on reste ensemble. Il y a forcément au début des petites disputes, mais on met ça sur le compte du couple. Être en couple, c'est aussi ça, c'est se disputer de temps en temps, tout ça. Mais les disputes, en fait, se multiplient. On se dispute. Enfin, la dispute devient quasiment plus présente dans notre couple que les moments de bonheur, même s'il y en a certains, qui sont d'ailleurs très très beaux. Mais les dysfonctionnements sont très présents. Et ce qui complique beaucoup la relation et ce qui nous pousse à nous séparer plusieurs fois avant notre vraie séparation qui est donc en février 2020.
Alors cet homme-là est arrivé dans ma vie un petit peu par surprise. Je venais de me séparer du père de ma fille, donc de mon mari. On était restés 11-12 ans ensemble. Et moi je venais vraiment de me séparer d'avec cet homme-là. Quand j'ai retrouvé, plus précisément, cette nouvelle relation. Ça n'aurait pas pu être possible avec un autre homme, mais il s'agissait du grand amour de ma vie que je retrouvais après 25 ans. Quand je dis grand amour de ma vie, ouais, j'ai aimé ce garçon-là du plus loin que je me souvienne. Je l'ai rencontré, j'avais 6 ans, je me souviens encore de cette rencontre. Je l'ai aimé toute ma jeunesse, je l'ai aimé toute mon adolescence. Et 25 ans après, alors que je suis en train de me séparer, je le retrouve. Donc, je me suis jetée à corps perdu dans cette relation, et lui pareil, parce qu'il sortait aussi d'une relation compliquée. Du coup, ça a été très rapide. En quelques mois, il venait habiter à la maison une semaine sur deux. Puis très rapidement, je l'ai présenté à ma fille. Puis très rapidement, il est venu s'installer à la maison. On a dû vivre comme ça pendant un an. Et très rapidement, on a décidé de partir de Paris et d'acheter une maison ensemble et de partir à la campagne. Alors, pas très loin de Paris, parce que le papa de ma fille habite à Paris. Et donc, il était évident que je voulais pas rompre le lien entre ma fille et son papa. Donc très rapidement, on décide de partir de Paris. Et puis, pendant toute cette année à Paris, la relation se passe très bien. Il y a quelques petites choses, des petits détails qui me font dire que... Des fois, il y a des petits trucs qui me font dire que... Mais comme je suis dans l'enthousiasme de cette relation, dans les retrouvailles de cet homme, je suis en train de vivre mon grand amour, en fait. Du coup, j'occulte toutes ces petites choses sur lesquelles j'aurais dû certainement faire attention. Mais globalement ça se passe bien, mais je pense que pendant cette période là en vrai c'est qu'il prenait sur lui sur tout un tas de choses, donc on a une relation plutôt fusionnelle, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est quelqu'un qui me sécurise, on est au lendemain des attentats, il est policier, je me sens en sécurité avec lui, il prend en charge beaucoup de choses, il anticipe beaucoup de choses, il est très reposant en fait pour moi, parce que la relation précédente que j'avais eue, c'était pas du tout le cas, et là il m'apporte tout ce que je n'ai pas eu avant, et ça me fait beaucoup de bien.
Toutes les relations amoureuses commencent par une belle histoire. Un lieu, une musique, un moment. Deux personnes se rencontrent et l'amour leur tombe dessus. Ils ou elles se mettent ensemble et puis c'est le bonheur. Mais tout n'est pas toujours tout rose et même si l'on souhaiterait que ce soit merveilleux et sans accroc, la réalité nous rattrape vite et il faut parfois arrêter cette relation. Il existe trois types de séparation. La première, c'est lorsque l'on est quitté. Cela provoque un choc et souvent beaucoup de tristesse. On se retrouve alors totalement déstabilisé dans son quotidien et dans ses émotions. Le second, c'est de décider de quitter. Il n'y a alors pas de choc, puisqu'on a pu réfléchir à la séparation avant. Mais ça n'évite pas la tristesse. On peut souvent ressentir un sentiment de culpabilité d'avoir quitté et d'avoir fait du mal à la personne. Le troisième type de rupture, c'est celle qui se fait avec la décision mutuelle des deux parties. On décide de se quitter d'un commun accord. On peut évidemment ressentir de la tristesse, une certaine déception que la relation n'ait pas marché, mais c'est généralement plus simple à gérer émotionnellement. Parfois, un élément extérieur provoque la rupture, puisqu'il vient toucher un point sensible chez l'un des partenaires. Et celui-ci, ne le supportant pas, va décider de rompre. Ce petit élément extérieur n'est finalement qu'un déclencheur qui vient mettre en avant tous les problèmes du couple.
Donc comme je le disais auparavant, en février 2020, on finit par se séparer. Il y a un élément déclencheur qui est lui allant voir une amie à lui dont je ne connais pas du tout cette personne. Et je rappelle, j'ai énormément d'insécurité à ce moment-là parce que ça va déjà plus dans notre relation. Et donc il va voir une fille, il va boire un verre avec une fille qui est une amie à lui. Moi, je ne supporte pas ça. Je lui demande de me rassurer encore une fois. Ça ne marche pas et on se sépare. Et en fait, plus tard, j'ai vite compris qu'en fait, notre relation était très toxique, puisque À partir de l'hiver, lui, ses sentiments ont commencé à baisser parce que les disputes s'accentuaient. Et moi, mes insécurités, du coup, ont grandi. Et on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Au-delà, au départ, c'était juste notre vision de voir la vie qui était différente. Mais on était rassemblés par nos sentiments. Et au moment où ses sentiments à lui ont commencé à baisser, on n'était plus rassemblés par ses sentiments. Et donc, on est entré dans une relation très toxique. Il y a eu plusieurs ruptures. Qui ont été à chaque fois très difficiles pour moi. Je rappelle que ce garçon, c'est mon premier amour, donc j'étais folle amoureuse de lui. Et donc de le voir s'éloigner petit à petit, c'était horrible, c'était atroce. Mais à chaque fois, en fait, ces ruptures se soldaient par une remise ensemble avec on va faire des efforts, on va retravailler là-dessus. Et 2-3 semaines après, ça repartait comme avant. Et comme lui le disait, l'amour ne fait pas tout. Et je pensais que ça faisait tout. Et ça n'a pas été le cas. Et ce qui nous a poussé, en fait, finalement, à nous séparer, même si ça a été une séparation pas si nette que ça, finalement.
Parfois, avec le temps, on s'éloigne l'un de l'autre, jusqu'à ne plus se retrouver sur des points essentiels, comme nos valeurs profondes. Aglaé nous raconte comment elle a vécu la fin de sa relation avec un homme qui ne partageait plus ses valeurs.
Un matin, je me réveille auprès de lui après une soirée chez des amis, et les seules choses auxquelles j'arrive à penser, c'est tout ce que je ne supporte plus chez lui. Ses valeurs, elles concordent plus avec les miennes, en fait. Je suis quelqu'un de féministe, écolo, LGBT aussi, et lui pas du tout, c'est pas du tout des sujets qu'il touche, voire c'est des choses qu'il ne respecte pas, moi je me sens pas respectée, et puis je me mets à constamment éviter les sujets de discorde pour éviter le conflit, et puis à tel point que je me retrouve à contrôler mes pensées pour qu'elles coïncident avec les siennes. Comme on se voit peu, on s'éloigne, et ces rares fois où on se voit, il faut systématiquement qu'on aille en soirée, qu'on voit des gens, mais rarement les deux seuls. Et pendant ces soirées, il boit beaucoup. Donc les lendemains sont chaotiques pour lui et très difficiles pour moi. Donc je me retrouve à n'avoir le droit qu'aux miettes de ce qu'il est réellement. Et nos amis, ils ont vraiment sa version complète, drôle, joyeuse, alors que moi, je me le coltine systématiquement en gueule de bois. Mais le pire du pire, pour moi, dans cette histoire, ça reste le jugement de sa part. Parce que pour lui, t'es une fille bien, mais seulement dans un certain cadre. C'est-à-dire que si j'adoptais un style androgyne, ou alors que je me maquillais, ou que je portais des vêtements trop moulants, décolletés, à son goût en tout cas, bah, je me prenais obligatoirement une remarque, c'était sûr. Et je réalise qu'il a presque jamais fait d'effort pour venir me voir dans les différentes villes où j'ai habité pour mes études. Alors... que j'allais très mal à une période de mes études sup. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir ses amis, voire traverser la moitié du globe. Et donc, à partir du moment où j'ai réalisé ça, j'ai instauré peu à peu de la distance entre nous, et un jour, je lui ai donné rendez-vous en ville, et je lui ai expliqué que je voulais plus être avec lui, tout simplement.
Une relation amoureuse n'a pas les mêmes enjeux lorsque des enfants y sont mêlés. Tess s'est retrouvée dans une situation où son compagnon ne respectait pas sa vision de l'éducation vis-à-vis de sa fille. Ces conflits mèneront à leur séparation.
Donc on achète une maison à la campagne, on part vivre, on part s'y installer. Et c'est là que les premières grosses disputes commencent à éclater. C'est-à-dire qu'en fait, je ne supporte pas la façon dont il traite ma fille. Et... dans les moments de recadrage. Du coup, ça engendre beaucoup de disputes. Nous avons de gros désaccords sur la façon d'élever ma fille, donc sur l'éducation. Moi, il s'agit de ma fille, donc en fait, il n'est pas question qu'il ait le dernier mot. Il est sur une éducation très à l'ancienne, très autoritaire, que moi, j'ai subi toute mon enfance, donc évidemment, ça fait écho à des choses certainement qui ne sont pas réglées chez moi. Je ne peux pas le supporter et je ne peux pas supporter que ma fille ait à subir ça. Donc on en parle beaucoup tous les deux. Il s'avère qu'il se rend compte de ces débordements. qu'il les subit, certainement. Vers la fin, il est prêt à se faire aider, mais il ne franchit jamais le pas. Donc, ça va crescendo, en fait. Les disputes montent crescendo. Il prend de moins en moins sur lui. Il est de plus en plus, moi, je trouve, violent dans ses paroles envers ma fille. Et pour moi, ce n'est plus du tout supportable. Donc, ça devient vraiment problématique. On arrive toujours à en parler à froid, mais quand, en fait, il vit la situation, ça déborde, toujours. Et en fait, tout ça a des incidences sur tout le reste de notre relation, évidemment. Donc c'est vrai qu'on s'entend bien, c'est vrai qu'on rigole bien, c'est vrai que notre relation, elle est par ailleurs très jolie, mais elle est très très entachée par ces grosses disputes et ces gros recadrages liés à ma puce, parce que du coup je ne suis pas la seule impliquée, ma fille est aussi beaucoup impliquée et elle subit également cette relation. Donc moi je suis prise entre ma fille et l'homme que j'aime, sauf que l'homme que j'aime, ben, je l'aime de moins en moins parce que je ne supporte plus qu'il parle de cette façon à ma fille, et ça devient presque inextricable.
C'est après une forte dispute avec son compagnon de l'époque que Tess, accompagnée de sa fille, part à Paris pour un aller-retour. Et à son retour, c'est le choc, il est parti.
Alors cette rupture intervient au bout de 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc je rappelle le contexte, j'ai quand même changé de vie. J'ai quitté la ville où j'habitais, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté en fait tout mon monde pour vivre cette vie avec lui, que j'ai choisi, hein. Je ne lui donne pas du tout la responsabilité de ça, mais je rappelle juste le contexte, que moi je suis donc à la campagne, assez isolée, sans vraie relation amicale, sans famille, je ne travaille pas à l'époque, et on vient d'acheter une maison, et on a acheté cette maison ensemble. Donc cette dispute arrive un soir de trop où il parle mal à ma fille, un soir où on devait l'emmener donc chez son papa à Paris, et donc pour cela on prend le train et on l'emmène à Paris, et donc ce soir-là en fait ça déborde de nouveau, il parle très très mal à ma fille, et donc on est sur le départ, et là je lui interdis de m'accompagner, je lui explique qu'il est hors de question qu'il vienne avec moi, et que je vais emmener ma fille toute seule à Paris. Et du coup, il me répond que ben si c'est ça, il me dit t'es sûr, parce que je te préviens, si tu fais ça, quand tu reviens, je ne suis plus là. Et je ne me débine pas, en fait, je ne me démonte pas, je lui dis bah très bien. Et du coup, je prends ma fille avec moi, je l'emmène à Paris, je fais l'aller-retour à Paris. Donc dans le train, enfin c'est assez. C'est une situation qui est très difficile à vivre, parce que ma fille pense. Enfin, craint qu'il ne soit plus là à mon retour. Elle est pitchounette, hein. Elle doit avoir 6-7 ans à l'époque. Elle craint qu'il ne soit plus là et surtout elle pense que c'est de sa faute. Donc je passe mon trajet à essayer de la sécuriser. Et puis en effet, donc c'est un soir, en plus je me souviens, il neigeait, c'était en plein hiver, donc il fallait que je prenne la route, puis le train, et ouais, c'était quand même une ambiance assez particulière. Et en effet, quand je reviens à la maison, je constate qu'il n'y a plus d'affaires, il a pris toutes ses affaires, et il est parti. Donc c'était hyper violent, même si je m'y attendais, même si je m'y préparais, même si je souhaitais cette rupture, quand je suis rentrée, de se quitter sur une dispute devant ma fille avec une telle violence et rentrer, ne plus rien trouver de lui à la maison. Ouais, non, c'était hyper violent pour moi et pour elle.
Rompre, comme on le dit souvent, c'est faire le deuil d'une relation. Comme je vous le disais en début d'épisode, le cerveau associe la rupture à un sevrage d'une addiction. C'est la raison pour laquelle la séparation peut être très difficile à supporter et à traverser. Si l'on fait le choix de faire un parallèle entre un deuil et une rupture amoureuse, on peut mettre en relation certaines étapes de celui-ci. En premier lieu, il y a le choc et le sentiment d'être perdu, d'être totalement déstabilisé. On a alors du mal à réaliser que la situation est réelle. Le système émotionnel peut même s'en trouver comme bloqué. On n'arrive plus à ressentir vraiment les émotions par lesquelles on passe, qu'elles soient positives ou négatives. Léna a ressenti ce choc qu'elle qualifie elle-même comme un déchirement.
Donc on finit par se séparer en février 2020. Pour moi, c'est un déchirement, un choc immense. J'ai l'impression de perdre une partie de moi, en fait. Pour moi, ce garçon, c'était toute ma vie, c'était l'homme de ma vie et je ne me voyais pas autrement qu'avec lui, donc ça a été très très difficile. Je dormais plus chez moi à ce moment-là, je dormais chez mon parrain parce que je ne pouvais plus être seule. Je pleurais beaucoup, j'étais très en colère et en fait, ce qui m'a un peu sauvée de tout ça, c'est d'avoir revu un pote à moi, à l'époque que je ne connaissais pas beaucoup, qui était en fait plutôt un ami de mon ex. Mais avec qui j'ai discuté un peu de cette rupture et qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait rencontrer du monde et qui m'a fait sortir et ça m'a fait beaucoup de bien même si c'était un peu un cercle vicieux où en fait je sortais pour oublier, je buvais beaucoup et voilà, mais ça me faisait du bien. Sauf que arrive mi-mars 2020 et c'est le confinement et là je suis en pleine rupture, je ne peux pas être seule, je vis très mal ce qui se passe. Et la France entière est confinée, nous sommes tous obligés de rester chez nous. Et là, c'est la descente aux enfers. Je me retrouve confinée en fait avec ma mère et ma sœur, ce qui est déjà difficile puisque les relations familiales sont compliquées. Mais je prends sur moi par rapport à ça et en fait, j'intériorise beaucoup, enfin en pensant intérioriser, mais tout le monde voit que je vais très mal. Et j'essaye de process en fait toute cette rupture. Je vois à ce moment-là une psy avec qui je discute beaucoup de tout ça, qui est en fait une psy que je vois juste spécialement pour la rupture. Et finalement, avec le recul, cette pause du confinement m'a été très nécessaire en fait pour process toute cette rupture, tout ce deuil en fait finalement, parce que pour moi c'était vraiment un deuil, je perdais c'est presque horrible de dire ça mais je perdais presque la personne la plus importante de ma vie à ce moment là
Aglaé de son côté n'a pas ressenti ce choc puisqu'elle a décidé de rompre. Pourtant elle n'a pas été insensible à cette décision et s'est sentie profondément triste, rongée par la culpabilité.
Sur le moment, j'ai été extrêmement triste. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lui annonçant et en rentrant chez moi. Le lendemain aussi. En fait, dès que je pensais à lui ou à la situation, je me mettais à pleurer. Je me suis dit que j'avais laissé tomber l'amour de ma vie, que c'était la seule personne qui pouvait m'aimer. J'ai énormément culpabilisé. Je me suis demandé comment j'avais pu lui faire ça. Je me suis dit qu'il allait être tellement malheureux parce qu'il s'y attendait pas. Quel genre de personne sans cœur est-ce que je pouvais être pour faire aussi facilement une croix sur 4 ans et demi de relation? Et en fait, j'ai presque plus pensé à son ressenti qu'au mien, maintenant, avec le recul, quand je regarde cette histoire. Et je me souviens que j'avais le cœur tellement lourd. C'était comme si j'avais fait l'erreur de ma vie, comme si j'allais jamais me remettre de tout ça.
Ensuite vient l'étape de la dénégation et du retrait. On entre dans une phase de déni, on pense que tout va rentrer dans l'ordre, on nie la réalité de la situation pour soulager la douleur que la séparation représente. Après le choc, la personne qui vit la séparation n'est pas toujours prête à affronter la réalité des choses. C'est évidemment en général un processus inconscient. Les spécialistes du sujet ont relevé plusieurs symptômes qui peuvent montrer qu'une personne est dans cette phase. Une fatigue constante, un manque d'envie, d'appétit ou de motivation, un sentiment d'être toujours dans l'attente comme si la situation n'était pas définitive, qu'elle allait forcément s'arranger, ou encore de la colère qui peut parfois être totalement inexpliquée. On peut également ressentir parfois de la honte.
Alors je suis bien sûr passée par une période de déni puisque en fait j'avais des affaires à moi chez lui et lui des affaires à lui chez moi. Donc il a fallu qu'on se revoie plusieurs fois pour récupérer ses affaires et à chaque fois c'était... il y avait de l'attirance, il y avait de l'amour de ma part pour lui, je ne sais pas. Mais du coup on était quand même très proches. J'avais un peu la sensation que lui jouait de cette situation même si... Au départ, il avait l'air très malheureux, mine de rien, de tout ça. Parce que lui aussi sortait d'une relation toxique, du coup, avec moi. Donc, il fallait process certaines choses pour lui. Donc, c'était un peu compliqué aussi. Mais, du coup, oui, j'étais dans une période de déni. Puisque dès qu'on se voyait, j'avais l'impression que ça allait mieux. Puis, on avait déjà vécu des ruptures. Donc, je me suis dit, bah, celle-là est juste un peu plus longue, mais ça va repartir. Ce qui n'a pas été le cas, réellement. Et donc, à chaque fois qu'on se voyait, ça allait mieux, machin. Et donc, moi, j'étais un peu dans ce truc de bah, il va finir par revenir, on va finir par se remettre ensemble. Et en fait, les quelques fois où il est revenu, c'était juste sexuel, en fait. On n'a fait que coucher ensemble. Et moi, ça me remettait dedans en me disant on va se revoir, on va se remettre ensemble. Il a changé et c'était pas le cas. Et jusqu'à, je pense, peut-être novembre 2022 ou 2021 ou peut-être même décembre 2021, je ne concevais pas que cette relation était réellement terminée. Donc il m'a fallu plus de 2 ans, ouais, pour me remettre, en fait, pour sortir de cette période de déni. Parce qu'en fait, à chaque fois, on se revoyait et ça me remettait dedans.
Évidemment, le déni n'est pas une étape obligatoire, surtout lorsque la séparation était voulue ou prévue.
Je pense pas être passée par une période de déni, parce que pour moi, la situation elle était vraiment très claire. C'était acté, c'était comme ça. Et il n'y avait pas moyen de revenir en arrière là-dessus.
Je suis pas passée par une période de déni, pas du tout, parce que cette rupture, finalement, elle était souhaitée. Je pense qu'elle était souhaitée des deux côtés, parce qu'en fait, on ne savait pas, on s'aimait, mais on ne savait pas gérer ce qui nous séparait. Moi, il n'était pas du tout question que je fasse un... Enfin, le choix entre ma fille et lui, il était vite fait. Donc je suis pas passée par une période de déni, par contre je suis passée par une grosse phase de tristesse, de colère, de désarroi. Je me suis demandé comment j'allais faire parce que du coup je me retrouvais dans une maison que je n'avais pas les moyens de payer, sans travail, mon chômage s'arrêtait 6 mois après, je passais des entretiens, il n'y a rien qui marchait. Donc non, ça a été une période très angoissante, avec beaucoup de remise en question de ma part, c'est-à-dire un gros constat d'échec. Je m'en suis beaucoup voulu, en fait, de m'être jetée à corps perdu dans cette relation, sans finalement qu'on ait pris le temps d'apprendre à se connaître. Et puis, de la tristesse, parce que bah, c'était quand même quelqu'un que j'aimais, malgré tout, parce que j'arrivais à avoir la beauté de cet être-là, malgré les côtés qui pouvaient être handicapants pour notre relation. Et je trouvais que c'était du gâchis, en fait. Je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup de gâchis et de l'impuissance de pas avoir réussi à transformer tout ça. Et puis, oui, du coup, du grand désarroi, de la grande insécurité, beaucoup d'incertitudes, d'insécurité financière, de l'insécurité affective. C'était une période vraiment, vraiment compliquée pour moi. Thank you.
On peut alterner de nombreux états émotionnels durant ce processus de deuil, comme le disent très bien Tess, Aglaé et Léna. Attention, Aglaé et Léna évoquent le sujet des pensées suicidaires. Si jamais c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, tu peux avancer l'épisode d'environ 5 minutes après le témoignage de Tess, que tu vas pouvoir entendre tout de suite.
Les états émotionnels par lesquels je suis passée, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de désarroi, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitude, beaucoup de peur. Tout ça mélangé, parce que encore une fois, je me retrouvais toute seule. J'avais pas du tout envisagé de vivre dans une maison seule à la campagne. Paris, solo, maman solo à Paris, c'est encore gérable. Mais maman solo à la campagne, ça devenait quelque chose beaucoup plus complexe pour le coup. Et ça a été vraiment très compliqué. Je pense que ça a été très compliqué. Même si cette rupture était, c'était pas l'idée de me remettre de cette rupture, c'était l'idée de comment je vais faire pour vivre seule maintenant dans ces conditions-là. C'était plus ça, le plus dur à comprendre, à assimiler, à accepter, à dépasser.
Ma première émotion, ça a été une intense tristesse. Elle a été très vite suivie d'une grande culpabilité. Je me disais que j'avais été égoïste, que j'avais brisé le cœur d'un garçon profondément gentil, qui s'y attendait pas du tout. Alors que paradoxalement, ça faisait littéralement des semaines que je réfléchissais aux raisons pour lesquelles je voulais plus de cette personne dans ma vie, ni de cette relation. À penser à tout ce que je détestais chez lui et qui était immuable, à mon sens. Puis c'est de la peur qui est arrivée. Peur que nos amis communs me tournent le dos. Peur de passer pour la méchante. Peur d'être seule aussi, bien sûr. Et puis plus tard, j'ai ressenti un immense soulagement. Genre, j'étais enfin libre. Je pouvais me reconnecter à moi-même et puis vivre pleinement ma vie. Et enfin, ça a été de la colère que j'ai ressentie. Je me suis demandé s'il y avait encore des raisons pour que je lui en veuille, après quelques temps. Et il y a un souvenir que j'avais complètement refoulé, qui m'est revenu, mais en pleine face. C'était quand j'étais à la fac. J'étais vraiment rongée par la solitude. J'étais arrivée à un stade où je dormais très peu, je ne mangeais pratiquement pas. Et j'ai commencé à avoir des pensées très sombres. J'en suis arrivée à vouloir mettre fin à mes jours. Et j'en ai parlé qu'à lui, en fait. Il n'a rien fait pour m'aider. Voilà. Il a à peine réagi quand je lui ai annoncé. Il n'en a parlé à personne de notre entourage non plus, parce que je peux comprendre que ça fasse beaucoup pour une seule personne. Mais j'étais en danger, et j'étais incapable de me gérer à ce moment-là. Et il m'a laissée toute seule, complètement toute seule. Et heureusement, la vie a fait que ma situation, elle s'est améliorée, que tout a bien évolué, grâce à un concours de circonstances sympathiques. Et du coup, j'ai jamais fait de tentative de suicide. Mais après, une fois que j'allais mieux, on n'en a jamais reparlé. Il a complètement sous-estimé mon mal-être, et maintenant je trouve ça inadmissible de laisser la personne avec qui tu partages ta vie depuis des années toute seule face au suicide. C'est terrible.
Donc, le premier sentiment que j'ai eu après ma rupture, c'est donc le choc de me séparer de cette personne et que ça dure autant de temps. Il y a eu la période de déni dont on a parlé aussi. J'ai eu aussi beaucoup de colère et de tristesse mélangées. La tristesse du fait de ma séparation. La colère a été beaucoup plus partagée. D'abord, dans un premier temps, j'étais en colère envers ma famille et mes amis, puisque j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas en fait l'ampleur de ce que je vivais, l'ampleur du choc qu'a été cette séparation. De la colère aussi envers moi-même, puisque j'ai mis plus d'un an et demi à me remettre de cette séparation. Et pour moi, j'étais énervée parce qu'en fait, cette relation a duré 7 mois et j'avais du mal à accepter de mettre autant de temps à me remettre de cette relation qui, en fait, dans la norme, finalement, peut paraître assez courte. Il y a eu de la tristesse, comme on en a parlé, mais de la tristesse très profonde qui m'a poussée jusqu'à vouloir en finir avec ma vie, puisque je voyais plus l'intérêt en fait de vivre sans cette personne. Beaucoup plus tard, il y a eu la résignation aussi, le fait de me dire ok, c'est terminé. Et je suis passée par cette étape plusieurs fois, parce que comme je le disais auparavant, on s'est revus quelques fois après notre séparation. Et donc à chaque fois, c'était un pic de ok, on va se remettre ensemble, c'est la bonne, ça marche mieux. Et résignation finalement après la tristesse de ok, bah, finalement c'est terminé, c'est la dernière fois qu'on se voit. Et depuis, je dirais, finalement, 2 mois, j'ai accepté cette relation et toute la situation par laquelle je suis passée après, toutes les difficultés par lesquelles je suis passée après. Et ce qui est intéressant, c'est que mon acceptation, elle a commencé avant après, en fait, ma reconstruction, puisque j'ai d'abord commencé à me reconstruire en me disant je me reconstruis, je deviens la personne qui veut que je sois, et comme ça on va se remettre ensemble et ça va durer. Et donc ce qui m'a permis, quelque part, ce déni, encore une fois, m'a permis de me reconstruire, mais l'acceptation et la reconstruction pour moi-même a commencé beaucoup plus tard, depuis, je dirais, à peine 2-3 mois.
La troisième phase que l'on pourrait donner lorsque l'on parle de rupture et de processus de guérison serait la reconnaissance et la douleur. À ce moment-là, on accepte la situation tout en souffrant toujours. Cette période est souvent la plus longue à traverser, puisqu'on réalise ce que l'on perd sans forcément réaliser ce que l'on gagne. Malheureusement, cette étape, aussi difficile soit-elle, est nécessaire pour retrouver un équilibre. Souvent, les personnes auront besoin de l'aide extérieure de leur famille, de leur ami ou d'un ou d'une psy. La personne peut aussi parfois avoir besoin de retourner vers celui ou celle qui l'a quitté pour avoir plus d'explications et ainsi réapprendre à avoir un quotidien équilibré sans lui ou sans elle. Ça lui permet de connaître tous les tenants et aboutissants de la rupture et d'avoir la tête au clair, de se sentir plus serein ou plus sereine et plus apaisé. Évidemment, il faut réussir à mesurer ça et éviter d'être trop en contact, car cela ne facilitera pas la séparation et le passage à l'étape suivante. Et enfin arrive la dernière étape, l'adaptation et le renouvellement. On passe alors du pourquoi au comment. J'ai compris, maintenant je vais m'en sortir et trouver des solutions pour aller de l'avant. La vie ne gravite plus autour de la rupture et on retrouve du plaisir, on retrouve des objectifs, de la motivation et on reprend peu à peu sa vie quasi normalement. L'un des risques après une séparation, surtout quand elle a été difficile à traverser, c'est de, pour éviter de ressentir de nouveau toutes les émotions négatives qu'a généré la rupture, se protéger parfois trop et ainsi passer à côté de certaines expériences, de certaines histoires. Il va falloir réussir à trouver un entre-deux et ne pas craindre de vivre à 100%, puisque vivre sans émotions négatives n'est pas possible. Toutes les situations sont factuellement neutres et c'est nous qui donnons une valeur émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, aux expériences que l'on traverse. Cela nécessite un réel travail sur soi pour tirer profit de ces expériences, même lorsqu'elles sont négatives. Évidemment, il est nécessaire d'apprendre à s'aimer soi avant tout pour affronter les futures expériences difficiles, être son meilleur partenaire, son meilleur soutien et apprendre à ne plus dépendre des autres émotionnellement. Même si l'on pense parfois pouvoir s'en sortir seul, on a souvent besoin d'aide, de soutien pour avancer après une séparation. En tant que mère, Tess a trouvé la force d'avancer grâce à sa fille, mais pas que. Grâce à la concrétisation de ses projets, elle a pu redonner du sens à son histoire, comme elle le dit elle-même.
Qu'est-ce qui m'a aidée à avancer après ma rupture ? Alors, ce qui m'a aidée à avancer après ma rupture, bah, c'est ma fille déjà, parce que bah, c'est vrai que les enfants, ils ont cette capacité à nous reconnecter avec la réalité, hein, avec le monde réel. Et puis, bah, évidemment, enfin évidemment non, mais ma capacité à rebondir, ma résilience, Ce qui m'a aidée à avancer, c'est de... Ben, déjà, j'ai trouvé du travail. Donc, ça a réglé les problèmes d'insécurité. J'ai pu, du coup, racheter sa part et racheter la maison. Des nouveaux projets. Je me suis lancée dans des nouveaux projets. Je me suis formée à l'hypnose, à l'EFT, à la PNL, à tout un tas d'outils qui me permettent aujourd'hui d'être thérapeute et de pouvoir accompagner les gens, ce qui m'a permis d'ouvrir mon cabinet, ce qui a donné beaucoup de sens à mon histoire et beaucoup de sens aussi à cette rupture. Ma capacité aussi à ben, tirer le meilleur de ce qui s'était passé, à tirer des leçons. Donc le meilleur, ben, c'est de me dire que oui, j'avais envie de quitter Paris, et que sans lui, bah, finalement, je ne l'aurais jamais fait, et qu'il m'a aidée à franchir ce pas. Alors, j'avais pas envisagé les choses comme ça, mais maintenant, elles sont comme ça, et j'y trouve beaucoup de bonheur.
L'entourage, les amis et la famille ont évidemment une place essentielle dans une période aussi éprouvante qu'une rupture amoureuse. Aglaé a trouvé beaucoup de soutien auprès de son entourage. Elle a pu se retrouver, elle, et son pouvoir de séduction.
C'est mon entourage qui m'a beaucoup aidée, mes amis surtout. D'abord une amie commune à lui et à moi, qui m'a aidée à me lancer quand je voulais quitter mon compagnon et qui m'a accompagnée une fois que c'était fait. Parce qu'elle avait vécu une expérience similaire auparavant, de vouloir se séparer de quelqu'un au sein d'un même groupe d'amis. Et elle m'a rassurée sur le jugement potentiel qui pourrait provenir de nos autres amis. Elle m'a dit que si certaines personnes choisissaient un camp ou décidaient de ne plus me parler, eh ben tant pis pour eux en fait. Mais elle était convaincue que tout le monde serait assez adulte pour se comporter correctement quoi qu'il en soit. Et puis les amis que j'ai rencontrés pendant mes études aussi, qui étaient des amis qui m'étaient propres, entre autres, elles m'ont beaucoup soutenue aussi. Elles m'ont rappelé que je me suffisais à moi-même et puis qu'il n'y avait que mon bonheur qui comptait au final et qu'il était temps de vivre pleinement. Ma famille aussi m'a beaucoup aidée. Mon parrain aussi, ma marraine, ma grande sœur de cœur également. En fait, toutes ces personnes, elles ont été là quand je leur ai annoncé. Et elles ont eu des mots rassurants. Elles ont vraiment reboosté ma confiance en moi. Voilà, elles m'ont rappelé qu'en fait, j'étais quelqu'un. J'étais vraiment une personne à part entière avant d'être la copine d'eux. Et étonnamment, c'est installé Tinder aussi qui m'a aidée de réaliser qu'en fait, je pouvais plaire en restant moi-même. Et puis que je pouvais m'amuser aussi, bien sûr, et pas me prendre la tête, parce que la finalité de la vie, c'est pas de chercher le grand amour. Surtout parce que, au final, c'est moi l'amour de ma vie.
Léna, de son côté, fait la démarche de se faire aider par une psychologue, en plus de son soutien familial et amical.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'a aider à avancer dans cette rupture, c'est à la fois le fait d'avoir vu une psy qui m'a fait beaucoup de bien, mais beaucoup de bien pour accepter en fait ce que je ressentais, mais aussi, comme je le disais au départ, j'étais très en colère envers ma famille et mes amis, mais c'est aussi eux qui m'ont aidé à avancer, puisque j'ai beaucoup fait la fête avec mes amis, j'ai beaucoup vu ma famille, et ce qui m'a permis de me sortir aussi de tout ça, sans forcément en fait qu'ils soient là pour discuter en fait de ce que je ressentais. Il me permettait juste de m'évader de tout ça, sauf une personne, une amie à moi qui a été très très là puisqu'elle vivait en fait plus ou moins la même chose et donc on mettait en parallèle nos situations et donc elle m'écoutait me plaindre quelque part de ce que je vivais en connaissant toute la relation et toute l'histoire derrière, tout en pouvant se plaindre derrière de ce qu'elle a vécu, donc on se raccrochait un peu l'une à l'autre. Et la dernière chose qui m'a beaucoup aidée en fait à accepter cette rupture, c'est la période de reconstruction dont je parlais tout à l'heure, qui m'a permis en fait de me rendre compte que ok, je pouvais être bien avec moi-même et je pouvais réussir plein de choses sans cette personne. Parce qu'il y a un point dont je n'ai pas parlé auparavant, c'est le fait que comme cette personne était tellement importante pour moi, je voulais arrêter mes études pour pouvoir continuer le service, la branche dans laquelle on s'était rencontrés, et en fait pouvoir partager des choses avec lui à ce niveau-là. Et en fait, quand on s'est séparés, j'ai eu ce moment en me disant « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue mes études ? Est-ce que j'arrête et je me consacre à autre chose ?» Et en fait, j'ai continué mes études et le fait de réussir là-dedans et d'arriver à au stade auquel je suis aujourd'hui, tout en ayant vécu cette rupture, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis de me dire « Waouh, voilà, tu peux être forte et tu peux y arriver par toi-même. »
Aujourd'hui, Léna est épanouie dans ses études. Elle est doctorante en histoire du droit et écrit une thèse. Comme quoi, il faut savoir se faire passer en première parfois et elle en est la preuve. Et après, comment vit-on une fois qu'on s'est remis de tout ça, une fois qu'on est de nouveau serein, sereine, et qu'on a la vie devant nous pour faire ce que l'on décide? Eh bien, on peut enfin devenir la personne que l'on n'osait pas être, et sortir de notre quotidien confortable qui a été bouleversé par la séparation. Léna en parle d'ailleurs très bien.
Ce que je retiens de cette rupture, c'est surtout ce que ça m'a permis de faire après, parce que ça m'a permis de me sortir quelque part de la zone de confort dans laquelle j'étais, avant ma relation, de rencontrer beaucoup de monde, de devenir en fait la personne que je voulais être depuis des années et que j'avais pas le courage de devenir. Je me suis créé une vie sociale que je n'avais pas avant. Je suis parvenue à faire ce que je voulais faire dans mes études, à arriver à un point où je ne pensais jamais parvenir. Je retiens aussi la force que j'ai en moi finalement de m'être battue et de m'en être sortie de tout ça. Parce que ça a été, encore une fois, très très compliqué.
On peut en profiter pour faire un bilan, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, les comportements que l'on ne veut plus accepter, les choses que l'on peut et veut améliorer chez nous, les gens avec qui on va avoir des relations, les types de personnalités qui ne nous conviennent pas, etc. On peut essayer d'accepter d'être seul, de ne pas vouloir être avec d'autres personnes parfois, de trier les personnes qui nous entourent pour ne garder que les meilleurs soutiens, ou même de rester célibataire si on le décide.
Je suis restée peut-être pendant un an toute seule. Quand on s'est séparés, j'ai eu une année vraiment de célibat pour me reconstruire, pour comprendre qui j'étais, pour apprendre à vivre en solo, pour valser, pour danser, pour accepter la solitude. Et ça, c'est vraiment un sujet très complexe, la solitude. L'isolement, parce que la campagne, parce que pas beaucoup de fréquentation, parce que pas beaucoup de sorties, enfin à part aller marcher dans la nature et en forêt, même si c'était un choix. Cette rupture m'a permis, je crois que j'ai beaucoup beaucoup grandi avec cette rupture, c'est-à-dire que aujourd'hui, ben, je sais que je suis capable de vivre seule. Je sais que je suis capable de beaucoup de choses, je sais que je suis capable d'être autonome, autant affectivement parlant que financièrement parlant, même si évidemment, comme tous les êtres humains, j'ai besoin, comme tout le monde, d'amour, et oui, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, mais ça m'a, en tout cas, appris beaucoup sur moi-même. J'ai aussi le souhait maintenant dans mes rencontres amoureuses d'être avec des hommes qui sont stables émotionnellement, c'est-à-dire qui ont déjà guéri leurs blessures. J'ai aussi envie de vraiment rencontrer l'autre. Que ce soit une vraie rencontre, de pas me laisser aveugler par toute la partie chimique, on peut dire, de l'amour, mais dans mes relations, j'ai envie de vraiment rencontrer l'autre. Et puis, quand je dis rencontrer l'autre, ça veut dire tomber amoureuse d'un homme pour ses beaux côtés, mais aussi pour ses mauvais côtés. Parce que si les mauvais côtés, on les aime pas, la relation, elle va être compliquée. Et l'amour, c'est pas que les beaux côtés. D'ailleurs, ce qui demande de l'amour, c'est de pouvoir aimer ces mauvais côtés-là. C'est ça qui nous demande de l'amour. C'est les mauvais côtés, les mauvais moments, c'est tout ce qui n'est pas joli, en fait. Donc j'ai recommencé à rencontrer des hommes. Il m'a fallu un an et je n'ai pas rencontré depuis la personne. en tout cas la personne avec qui j'ai envie de revivre une histoire d'amour. Mais aujourd'hui, je suis capable de vivre seule. Je ne suis plus dans la dépendance affective comme je pouvais l'être avant. Et tout ça, c'est vraiment des grandes victoires.
Et comme le dit Aglaé, une rupture peut nous permettre de se retrouver et de mieux respecter nos propres envies.
La conclusion la plus importante pour moi, c'est que rien ni personne ne doit t'empêcher d'être toi-même. Parce que non, ça n'a rien de glorieux de se sacrifier par amour. C'est quelque chose de très ancré, je pense, dans l'imaginaire commun. Mais c'est le genre de réflexion qui n'amène que de la douleur. Tu mérites le meilleur dans la vie, pas juste le minimum. Et c'est valable pour toutes les facettes du couple. On ne doit pas se forcer à penser pareil que son conjoint, on ne doit pas se forcer à avoir des relations sexuelles, on ne doit pas se forcer à avoir des personnes qui ne nous apportent rien et qui aspirent notre énergie. Donc voilà, maintenant que moi j'ai vécu ces choses-là, je me fais plus avoir.
Pour terminer cet épisode, je vais laisser la parole à mes trois invités du jour qui ont un message à faire passer à toutes les personnes qui vivent actuellement une période difficile suite à une séparation.
Alors, le conseil que je pourrais donner aux gens qui vivent une rupture amoureuse actuellement, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est que le temps fait tout. C'est très bateau, tout le monde le dit, mais finalement, c'est la réalité. Moi, je n'y croyais pas quand on me l'a dit après ma rupture. Je pensais être dans cet état toute ma vie et que jamais ça s'arrangerait. Mais si, ça finit par s'arranger. Ça finit par aller mieux et le temps répare tout. Et vous verrez qu'avec le temps, ça va vous permettre d'accepter en fait cette rupture, de la comprendre, de vous accepter vous, d'accepter ce que vous avez vécu. Et aussi de peut-être créer une relation différente avec vous-même, ce qui est très important finalement parce que c'est la seule relation que vous aurez de sûr toute votre vie. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous écouter. Écoutez ce que vous vivez, ne vous référez pas à la norme, ne vous dites pas que ce n'est pas normal ce que vous vivez, que vous devriez vivre ça autrement ou quoi que ce soit. Il faut vous écouter. Et n'écoutez que vous. Si vous êtes mal à ce moment-là, soyez mal. C'est normal, c'est ce que vous vivez et personne ne peut réellement comprendre ce que vous ressentez à ce moment-là. Et là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est totalement ok. Et vous verrez qu'avec le temps, ça va s'arranger.
Si tu hésites à te séparer, voici la phrase que mon ami m'avait dite et qui m'avait beaucoup rassurée. C'est « un doute, pas de doute ». En fait, tu te poserais pas la question si tout allait bien. Et à partir du moment où tu te demandes sérieusement si tu dois quitter une personne, c'est qu'il y a déjà trop de choses qui te conviennent plus dans cette histoire. Donc oui, ça va faire mal, c'est clair. Mais sur Terre, il y a tellement d'autres gens super. T'as pas besoin de perdre ton temps avec des gens qui te font du mal. Ou pas assez de bien, c'est possible aussi. Mais surtout sur Terre, il y a toi-même. Et ça, c'est la personne la plus importante à rencontrer dans ta vie. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie, je te le rappelle. Et de manière générale, où que tu en sois dans ta rupture, sache que tu as fait ou tu fais le bon choix. T'as sûrement peur de perdre cette personne à qui tu t'es tellement attachée. Mais je vais te dire une bonne chose, c'est que l'attachement, c'est ce sentiment qui fait que les mamans animaux, elles protègent leurs bébés plutôt que de les manger. C'est tout simplement ça. Donc ça va finir par passer, t'inquiète. Et puis, peut-être que la vie va faire que vous vous reverrez un jour, si jamais cette pensée te rassure. Et peut-être que vous allez revivre quelque chose parce que vous serez devenus de meilleurs humains. Ou peut-être pas. Peut-être que tu vas vivre ta meilleure vie de célibataire, et c'est ce que je te souhaite. Ou bien tu rencontreras quelqu'un qui est vraiment bien pour toi. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, qui est « Comme les autres, ce moment passera. Tu vas t'en sortir. Tu vas la retrouver, ta joie de vivre. » Voilà, tu ne me connais pas, mais je t'envoie énormément de love et de force.
La première des choses que je pourrais conseiller à une personne qui vit actuellement une rupture, ben c'est d'accepter de ne pas aller bien. En fait, c'est normal de ne pas aller bien. C'est normal d'être triste. C'est normal d'être en colère. C'est normal de se sentir seule. C'est normal de ressentir le manque. En fait, il ne s'est pas rien passé. Il s'est passé une rupture. C'est-à-dire que l'homme avec qui on était ou la femme avec qui on était, bah, du jour au lendemain, on va plus la voir, on va plus la sentir, on va plus la toucher, on va plus parler avec elle, on va plus partager son quotidien. Donc c'est normal de pas aller bien. On vit dans ce monde un peu là de développement personnel où on nous vend du bien-être à tout va, du il faut aller bien, mais en fait non, c'est normal de pas aller bien après une rupture. Donc la première des choses déjà, c'est d'accueillir son chagrin, d'accueillir sa peine, de l'accepter, de la reconnaître, de savoir que c'est ça et de savoir que c'est normal. Et puis de savoir aussi que on guérit toujours d'une histoire d'amour, on guérit toujours d'une rupture amoureuse. Que s'il y a eu rupture, c'est qu'il devait y avoir rupture, que c'était pas la bonne personne, ou ça a été la bonne personne pendant un temps, mais là c'est terminé, c'est plus la bonne personne. Donc oui, on va mettre du temps à s'en remettre, peut-être ou pas, mais en tout cas, rien qui est pas juste. Dans une rupture, c'est-à-dire que si à un moment donné on arrive à une rupture, c'est qu'il devait y avoir rupture. Maintenant, voilà, la première des choses à faire, c'est d'accueillir ces émotions, de les prendre par la main, de les chouchouter, d'accepter de pas aller bien. Peut-être de se fixer une deadline, de se dire, bah écoute, voilà, je me laisse tant de temps pour pas aller bien, mais par contre, dès la semaine prochaine, dès le mois prochain, ça ira déjà beaucoup mieux et je me fais la promesse. Ou alors, c'est de se lâcher la grappe. Moi, je suis partisane hein, du lâcher de grappe. En tout cas, quand il se passe un événement comme ça, c'est normal de ne pas aller bien, tout simplement. Et juste d'accepter de ne pas aller bien, ben déjà fait que ça va déjà un petit peu mieux. Et puis la deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que quand on vit une rupture, on a parfois notre monde qui s'écroule. Je l'ai dit, on se remet toujours d'une rupture. Mais l'important, c'est les petits pas qu'on fait. L'important, c'est pas d'aller bien comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain. Non, c'est petit pas après petit pas, chaque marche après chaque marche. Et l'air de rien, on finit par monter l'escalier. L'air de rien, petit pas après petit pas, on finit par faire un grand pas. Et juste ça, sans se mettre plus de pression, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je m'appelle Mathilde, je suis créatrice de l'émission Bouteille à la mer, j'ai produit et réalisé l'épisode que vous venez d'écouter. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir laisser une note sur les différentes applications d'écoute, comme Apple Podcast ou Spotify par exemple, ça me motive à continuer et ça fait grandir l'émission. Sachez qu'ici, la parole est libre et qu'aucun sujet n'est tabou. Si vous avez des choses à partager, un témoignage à apporter ou simplement envie de faire entendre vos voix sur un sujet en particulier, je vous invite à m'envoyer un mail avec votre présentation et une rapide description de votre histoire à l'adresse bouteillealamer-podcast@outlook.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le podcast Bouteille à la mer.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.